partager chacun d'entre nous la lecture, et puis des fois, on arrive devant un texte, la lecture personnelle, chacun d'entre nous, dans nos cultes personnels, on peut arriver devant un texte, on ne comprend pas nécessairement ce qui est dit, on note le verset, la question, et vous pouvez mettre ça dans la boîte à questions. Et du mieux que je peux, je vais essayer de trouver des réponses à ça. Et là, je dois dire, ce soir, je répète deux questions. Je pense qu'on va s'attarder sur deux questions. La troisième, je dirais la troisième, je vais expliquer ce que j'ai l'intention de faire avec. La question, la première question qu'on voit ce soir dans Hébreux 10, 26, il est dit, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Est-ce que ça s'adresse à des croyants ou à des incroyants? On va regarder cette question-là. La deuxième question, les proverbes. Comment est-ce qu'on doit les prendre? Est-ce qu'on doit les prendre comme des promesses qui nous sont données à chacun des proverbes? Ou est-ce que c'est des principes de vie qui nous sont donnés? Une deuxième question importante. Et une troisième question qui concerne l'épître de Jacques dans le chapitre 5. Je vais juste la citer. Jacques 5, 19 et 20. Le frère égaré, que ça dit si on va chercher notre frère qui s'est égaré, qui n'est plus dans la voie de la vérité, et qu'on y ramène, on sauve une âme de la mort. S'agit-il d'une personne sauvée? Si oui, alors avait-il perdu son salut? La question en ce qui concerne Jacques, j'ai l'intention d'attendre un petit peu parce que les dimanches matins, je continue, j'ai l'étude systématique dans Jacques, et puis je voudrais pas aller trop vite tout de suite, aller dans le chapitre 5, puis à un moment donné, je vais repasser par-dessus. Fait que je mettrais un petit peu, si pour la personne qui l'a écrite, je sais pas si elle est ici ce soir, on la met sur la glace. Puis on va l'aborder quand on arrivera le dimanche matin sur ça. Ça va me laisser le temps de dormir là-dessus aussi. Et puis les deux questions qu'on voit ce soir, vous pouvez déjà tourner avec moi dans Hébreux 10. Et j'aimerais sortir ma carte de ma manche pour dire que je me garde un droit de réserve sur l'explication qu'on va en tirer. C'est-à-dire que du mieux que je peux, on va regarder ce que les Écritures vont dire, mais il faut reconnaître que c'est un texte difficile, Hébreux 10. Alors, et si on regarde même les commentateurs, les exégètes, et puis les grands de ce monde qui ont une exégèse pertinente sur des livres comme Hébreux, par exemple, qui connaissent mieux que le grec que moi, même eux ont des positions, des fois, qui peuvent être divergentes. Alors, en bout de ligne, les applications, il y a des compréhensions quand même qui se rallient, mais il y a des positions différentes. Alors, je m'attends que, avec les deux questions qu'on va voir ce soir, il y aura peut-être pas en notre sein l'unanimité sur les positions qu'on va prendre. Et c'est sûr que je vais enseigner ce que je crois. Et puis, parce que c'est la meilleure façon que je suis capable de vous présenter ce qui est selon les Écritures. Et puis, mais je garde une ouverture d'esprit, si je peux dire, à reconnaître qu'il y a d'autres positions, par exemple, sur l'Épître aux Hébreux, qui ne sont pas mauvaises en soi non plus. Mais il faut prendre un choix, puis je vais vous diriger vers ce que je crois voir, dans les Écritures. Hébreux est une de mes épîtres préférées. J'aime beaucoup Hébreux. Hébreux, c'est complexe un peu quand même. C'est pas nécessairement pour ça que je l'aime, mais en même temps, on peut s'amuser longtemps à approfondir ce que l'auteur aux Hébreux est en train de dire. C'est profond de sens et c'est un peu l'enseignant que j'ai eu quand j'étais à l'école biblique, c'était Dr. Landstein, et puis que j'ai la même position que lui sur ce que je vais enseigner ce soir. Puis Dr. Landstein présentait que c'était fort probablement Paul, à son avis, qui a écrit Hébreu. Bon, il y en a qui vont dire Luc par Paul. Bon, bref, on ne le sait pas. Okay? Il faut accepter ça comme ça, on ne le sait pas. Mais quoi qu'il en soit, quel que soit l'auteur, on pourrait qualifier ça d'une thèse de doctorat quasiment que cette personne-là a voulu transmettre, qu'il y a des encouragements de cœur qui sont donnés, mais les arguments qui sont exposés sont des arguments très bien développés pour des Juifs, pour des Hébreux, qui ont grandi dans un système, qui ont les pères, puis l'auteur est un Hébreu lui-même. parce qu'il va s'inclure, si on regarde dans Hébreux 1, rapidement, regardez comment est-ce qu'il commence. Il va dire, mettons verset 1 et 2, après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères. Alors l'auteur est lui-même un Hébreu et va parler à ses auditeurs comme aussi des frères de sang. Il s'adresse à des Hébreux, c'est pour ça qu'on les appelle l'Épître aux Hébreux. Alors il nous a parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils, il a établi héritier sur toutes choses, par lui il a aussi créé l'univers. Alors l'auteur est lui-même un Hébreu, et la façon qu'il développe ses arguments sont lourds de sens avec le plan de Dieu dans le passé à travers le peuple d'Israël, qui prend son sens dans la personne de Jésus-Christ. Tout ça, c'est l'argument de l'Épître aux Hébreux. Tout le plan de Dieu qui donne tout son sens avec Jésus-Christ. Maintenant, avant de répondre à cette question-là, sans dire que je veux trop peindre un portrait trop grand, là, je pense qu'il faut se poser des questions de base. À qui l'auteur s'adresse-t-il? Bien, à des Hébreux. Mais quel type d'Hébreux? Je pense que c'est important de se poser cette question-là. Est-ce que c'est des Juifs convertis? Est-ce que c'est des Juifs qui ont côtoyé la chrétienté sans être embarqués dedans, sans avoir placé leur foi là-dedans? Ou est-ce que c'est des Hébreux qui rejettent d'emblée le christianisme? C'est une question que j'ai envie de vous poser. Ce qu'on va faire, on va lire les versets, je vais lire le verset 26 à 39, puis j'ai quelques questions pour vous, parce qu'avec les questions que je viens de vous poser, je pense qu'on va avoir des réponses dans ce qu'on va lire. Je vais commencer dans Hébreux 10, à partir du verset 26, et la question était donnée dans le verset 26. « Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sous la déposition de deux ou de trois témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne? Celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'Alliance, par lequel il a été sanctifié, qui aura outragé l'Esprit de la grâce. Car nous connaissons celui qui a dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, et encore le Seigneur jugera son peuple. » C'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairé, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances, d'une part exposé en spectacle aux opprobres et aux afflictions, et de l'autre vous associant à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers, et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs qui durent toujours. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leurs âmes. Première question que je vous pose, on va avancer ensemble. À qui il s'adresse? Des croyants? Des incroyants? Des gens qui ont flirté avec la chrétienté? Qu'est-ce que vous pensez? Les chrétiens? Pourquoi? OK, il dit nous. OK, au verset 19, OK, il appelle ses auditeurs des frères. Ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. OK? Alors, il y a un nous inclusif. L'auteur s'inclut dans les avertissements et les recommandations qu'il donne. OK, un bon argument. Oui, Céline. Oui. 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 Alors, il va s'inclure lui-même encore là. N'abandonnons pas notre assemblée. Oui, absolument. Absolument. Alors, si le point, ça ne serait pas long, Kathleen, si le point était que le nous, est-ce que c'est des juifs, l'auteur, il s'inclut au niveau des juifs ou sur le plan de la même foi? Et là, le verset 25 bien, montre que finalement, il y a un aspect d'assemblée qui est là, qui concerne la foi. Oui, Kathleen. Oui. OK. Absolument. Alors, lui-même, bon, retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Regardez, reculez dans chapitre 3, Hébreux 3. Ici, on dit que c'est des enfants de Dieu. Comprenez que le texte, il se complique encore aussi, hein? Mais en même temps, on ne cherche pas à simplifier le texte, on cherche à comprendre ce que Dieu dit. Regardez chapitre 3, verset 1. C'est pourquoi frère saint. Des fois, il va les appeler frères, mais il y a un contexte au tout début de l'épître où il va les appeler, ces auditeurs-là, comme des frères saints, qui va avec ce que Kathleen, tu viens de dire au verset 23, chapitre 10, qui ont la même profession. On va continuer le verset 1. C'est pourquoi frère saint, qui avait part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Alors, personnellement, je crois que, comme on vient de le constater ensemble, c'est des croyants à qui ils s'adressent. Il y a un nous inclusif, ils les appellent frères. Il dit, regardez le verset 29, sans regarder le châtiment comme tel ou la raison du châtiment, regardez le verset 29, de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'Alliance, par lequel quoi? Par lequel il a été sanctifié. Alors, pour moi, c'est un autre indice que cette personne-là, ou cette personne-là hypothétique qui aurait abandonné finalement la voie dans laquelle il était, ben, il a été sanctifié par ce sang de l'Alliance qu'il a. Alors, regardez le verset 32, ben, on a lu tantôt, là, mais dans le verset 32 à 34, il y a une manifestation d'une foi véritable aussi. Ils ont eu part à des persécutions, à des tribulations, ils ont perdu leurs biens, et l'auteur fait référence à ça en disant, souvenez-vous de ça. C'était une bonne chose. Vous souffriez pour votre foi, mais continuez quand même. Vous avez accepté, verset 34, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers, vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant quoi? Sachant que vous avez des biens meilleurs qui durent toujours. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. L'Épître aux Hébreux, pour moi, l'argument qui est donné dans l'Épître aux Hébreux, c'est la persévérance. Pour moi, c'est un épître de persévérance. Ces croyants-là, juifs, qui se sont convertis, ont cette tentation-là de revenir à un ancien système religieux, puisqu'ils ont grandi, ils ont toujours évolué de façon traditionnelle depuis des milliers d'années. Ils ont grandi dans ces pensées-là et ces philosophies-là qui leur ont été inculquées de père en père. Et là, ils se convertissent au christianisme et là, ils ont envie de revenir à une ancienne vie. Maintenant, verset 26. Encore là, c'est peut-être. Je pose la question, est-ce qu'il y en a, si vous êtes assez brave pour lever la main, là, ben assez brave, c'est correct, vous pourriez lever la main. Est-ce qu'il y en a parmi nous qui croient que ça s'adresse à des incroyants? François. Puis Richard. Je serais intéressé à connaître vos arguments. Pas pour les planter, là, parce que je veux comprendre. Ouais. Ouais. Des gens qui ont attaché, disons, intellectuellement à la foi, mais pas de cœur, puis que là, ces gens-là, ils se perdent. OK? Oui, mais exactement. C'est les gens qui croient justement, selon ce texte-là, que c'est des incroyants. Le texte, le verset que tu viens de citer est justement un argument pour dire, nous, on n'est pas de ces gens-là qui se retirent pour se perdre. Alors, il y a des gens qui ont cette position-là. Richard, tu veux compléter? Oui. Il est sanctifié par sa femme qui demeure avec. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Vas-y, François, continue. Ouais. OK. Dans ce que vous dites, c'est une interprétation développée, acceptée même parmi plusieurs évangéliques. Et puis, ça peut aller justement, si on prend cet élément-là d'une porte qui se ferme, je serais d'accord même pour dire que c'est vrai pour les croyants aussi, parce que même Hébreux 3, il va dire que je crois que c'est des croyants, mais que c'est la même application, c'est-à-dire que dans Hébreux 3, il va dire, empressons-nous donc à entrer dans ce repos. Tandis qu'il est encore temps, puis qu'on peut dire aujourd'hui, endurcissez pas vos cœurs. Il y a une période où ce que le chrétien doit s'empresser d'entrer dans le repos. C'est pas sur Hébreux 3 que le comprêche, mais c'est juste pour dire que c'est un argument connexe pour dire qu'effectivement, à un moment donné, un croyant qui abuse peut-être de Dieu, ben à un moment donné, il y a une porte qui va se fermer. Et ça, je suis d'accord aussi avec ça. Et j'allais dire que c'est une interprétation plausible aussi parce que c'est aussi un thème qui revient même à travers l'évangile de Jean. Parce que on a des disciples qu'on appelle avec dans Jean qui ne sont pas des disciples selon Paul. C'est-à-dire que c'est des gens qui se sont attachés à Jésus, comme Judas, et puis qui ont marché avec lui, puis qui ont eu la couleur de Jésus dans un sens parce qu'il était près de lui. Mais là, on arrive dans Jean 15 où Jésus dit, ben, les branches qui sont attachées à moi, là, mais que dans le fond, ils sont secs parce qu'il n'y a pas de vie qui passe à l'intérieur, là, il n'y a pas de sève, là. Mais ces gens-là, là, ils sont retranchés, ils sont jetés dehors, ils sèchent, puis on les brûle. Alors, Judas en faisait partie, puis c'est vraiment le contexte de Jean 15, là, parce que Judas, il venait de partir 2 chapitres avant. Puis dans Jean 6, on voit des disciples aussi qui ont, sur la parole dure de Jésus, vous pouvez manger ma chair et mon sang, ben, ça dit qu'il y a des disciples qui sont partis. Ces gens-là n'étaient pas réellement attachés à Jésus. Alors, dans votre interprétation, c'est pour ça que je dis que effectivement, il y a des arguments bibliques pour dire que oui, il est possible aussi d'avoir cette conclusion-là. Est-ce que c'est ça que l'auteur aux Hébreux dit? Tantôt, Jean-Pierre, tu as levé la main, après ça, je continue d'avancer, je te donne le droit de parole. Hein, le péché contre le Saint-Esprit que tu cites. Alors, le péché contre le Saint-Esprit, on peut ramener ça à un contexte aussi très précis au moment qu'il est donné. Jésus fait un miracle. Il montre, on voyait ce matin dans ma classe pour ceux qui étaient là, que quand Jésus fait un miracle, la gloire de Dieu, la gloire de Jésus se manifeste comme étant Dieu. Puis les gens qui par orgueil, par quoi que ce soit, quel est le motif intérieur qui refuse de voir cette gloire-là comme venant de Dieu et l'attribue à Satan, c'est dans ce contexte-là que Jésus, il dit, il ne sera pas, et c'est le péché contre le Saint-Esprit, là. Vous voyez de toute évidence la gloire de Dieu, l'œuvre de Dieu, le Saint-Esprit, et vous, vous dites ça appartient à Satan. Et je crois qu'il y a un contexte très particulier de dire justement que c'est un péché qui contre le Saint-Esprit, qui n'est pas pardonnable. Alors, bon, ça c'est un contexte précis. Maintenant, merci pour votre courage d'avoir partagé votre perception du texte aussi. Puis, j'ai la conviction de croire que ça s'adresse plus à des croyants. Alors, on va avancer dans ce sens-là, tout en respectant l'autre interprétation. L'auteur, il dit au verset 26, je pose la question, qui sont ceux qui peuvent pécher volontairement? Ceux qui sont éclairés, qui ont la connaissance de la vérité. Et l'auteur dit, si nous péchons volontairement. Encore là, il s'inclut lui-même aussi. Quel est le problème des péchés volontaires? Est-ce qu'il y en a des involontaires? On peut-tu pécher involontairement? Absolument. On peut même pécher par ignorance. Et on peut pécher volontairement. Mais selon la loi de Moïse, il n'y a pas de sacrifice pour les péchés volontaires. Regardez avec moi si on prend tout le contexte des Hébreux, pour eux, là, ça l'allume tout de suite, hein? Pour nous, on dit, c'est quoi ça veut dire, cela? Parce qu'on pense en termes de christianisme. Mais pour un Hébreu qui dit péché volontaire, plus de sacrifice, il comprend immédiatement ce que l'auteur est en train de dire. Parce que selon la loi, un péché volontaire, il n'y a pas de sacrifice. Regardez, tenez un doigt dans Hébreux 10, puis allez dans Nombre 15. Verset 27 à 31. Il y aurait d'autres textes là, qu'on pourrait regarder, là, mais on va couper plus court un petit peu plus. L'Ancien Testament a enseigné à ces Hébreux-là qu'il y avait deux types de péchés. Des péchés involontaires et des péchés volontaires. Quelqu'un qui veut me lire Hébreux, Nombre 15, 27 à 31, s'il vous plaît. Mélissa? OK. L'expression de main levée ici, c'est un péché volontaire. Puis c'est parallèle avec ce qu'on vient de lire juste avant, involontaire. Alors, avec orgueil, c'est un péché où la personne dit, je le fais quand même, tu sais, défi, ouais, c'est ça. Alors, je le fais quand même. Mais cette personne-là, ce que le texte dit, ce que la loi dit, c'est qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de sacrifice. Tu ne peux pas offrir un agneau ou trois tourterelles ou peu importe. Il n'y en a pas de sacrifice. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de pardon? C'est ça qu'il faut nuancer, par exemple. Le texte dit, verset 31, « Il a méprisé la parole de l'Éternel et il a violé son commandement. Celui-là sera retranché. Et quoi? Il portera la peine de son iniquité. Revenez dans Hébreux 10. C'est vraiment le contexte. On aurait pu regarder dans Deutéronome aussi. Je vais juste donner la référence, là. Deutéronome 1,43, 17, chapitre 17, versets 12 et 13 aussi qu'on aurait pu regarder. Mais l'auteur aux Hébreux, il dit, si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Si ces gens-là qui marchaient avec Dieu, qui ont eu la connaissance de la vérité, qui ont reçu, c'est ça, la connaissance de la vérité, et qui veulent revenir à un ancien système et qu'ils pêchent volontairement, quel sacrifice est-ce qu'ils ont? Il n'y en a pas de sacrifice pour la personne qui pêche volontairement, même selon la loi. Alors, il était là le problème. Regardez, il y a un mot clé. Qui est au verset 29. On va regarder tantôt la suite, là. De quel pire châtiment? Allez avec moi tournez un chapitre plus loin. Chapitre 12, verset 7, par exemple. Le mot châtiment est important parce que ce n'est pas une condamnation, mais c'est une punition. À qui le châtiment est donné? Regardez verset 7, chapitre 12. Supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Vous n'êtes pas des enfants de Dieu, vous n'êtes pas les fils de Dieu. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à la sainteté, à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. On pourrait continuer de lire. À qui le châtiment est donné? À ses enfants. Le châtiment est donné à ses enfants. Celui qui est exempt du châtiment de Dieu, c'est qui? Ils n'appartiennent pas à Dieu. Les enfants de mon voisin, je dis ça souvent, les enfants de mon voisin, je ne les punis pas, là. Je punis mes enfants. Et ça crée, pour, comme il dit, une tristesse pour un temps. Mais par après, ça crée un fruit qui est agréable, qui est bon. Et là, au verset 29 du chapitre 10, on parle d'un châtiment qui est donné. Et selon le contexte même de Hébreu, c'est un châtiment donné à des enfants. OK. Dans ces versets-là, il y a un parallèle à distinguer. C'est-à-dire que l'auteur, il dit, quand il emploie les expressions « si nous péchons volontairement », ça fait vraiment référence aux coutumes, à ce qu'ils connaissent de la loi. Et il va ramener, regardez tout de suite après, verset 28, celui qui a violé la loi de Moïse, on vient d'en parler de la loi de Moïse quand il parle du péché volontairement, il meurt sans miséricorde sur la déposition de deux ou de trois témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu? Il met en parallèle deux choses. Il est en train de dire, imaginez, dans la loi de Moïse, dans laquelle vous avez grandi, vous êtes dans un ancien système, si, quand on pêche volontairement, sur la déposition de deux ou de trois témoins, on châtie cette personne-là et on l'élimine, dans un sens, elle est morte, à bien plus forte raison, dans la nouvelle alliance, c'est pire. Parce que là, c'est pas seulement que d'avoir enfreint un commandement, on a foulé aux pieds le Fils de Dieu. Et ça, c'est pire pour un enfant de Dieu qui viendrait qu'à mépriser cette nouvelle alliance-là. Alors, l'auteur fait un parallèle en disant, regardez comment c'était avant, et de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura fait trois choses? OK, est-ce que j'arrête là, je fais une petite pause, je prends des questions ou des commentaires là, pour continuer d'avancer, pour pas que ça bloque à certains endroits. Oui, Christian. Je crois que ça serait d'abandonner Jésus. À un moment donné, la personne a cru que Jésus était le Messie, a cru que Jésus était venu pour pardonner ses péchés, que son sang a coulé pour le sauver, et puis qu'à un moment donné, elle revient au bouc et au bélier. Et ça, mais c'est l'argument d'Hébreu aussi. Hein? Hébreu 9, il va dire, est-ce que le sang des boucs des béliers est plus efficace que celui de Jésus? Mais non. Alors, pour moi, c'est ça, fouler aux pieds le Fils de Dieu, c'est d'abandonner toute la grâce, la miséricorde, la justice que Dieu est en train de donner à travers son Fils, puis d'abandonner ça pour revenir à un vieux système. Dany? Couvrir de mépris, c'est ça, de négliger, mépriser le sacrifice de Christ. OK. Oui, vas-y, Michel. Oui. Je suis content que tu poses la question. Parce que quand on pêche, 1 Jean 1,9 nous dit clairement que si on pêche, on doit confesser nos péchés. Et c'est quoi le caractère de Dieu? Fidèle et juste pour nous les pardonner. Qu'est-ce que je fais quand je pêche? Je confesse mes péchés. Maintenant, le contexte précis dans lequel on regarde Hébreux 10, c'est vraiment des gens qui, comme on vient de dire, se détournent de Jésus-Christ. Ouais, et regardez le verset... et là, on pourrait parler encore longtemps là pour sur ce texte-là, parce que comme je disais tantôt dans d'entrée de jeu, là, et on peut approfondir longtemps là, l'Épître aux Hébreux. Mais il dit au verset 29, trois choses qui caractérisent dans un sens ce péché volontaire-là. Verset 29, fouler aux pieds le Fils de Dieu, première chose. Deuxième chose, qui aura tenu pour profane le sang de l'Alliance. Et troisième chose, bien, par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'esprit de la grâce. C'est trois choses assez graves. Et toute l'Épître aux Hébreux se tient bien. Hein? Si vous regardez encore le chapitre 12, on a regardé tantôt le châtiment. Regardez verset 15. On va lire à partir du verset 15 jusqu'à peut-être 17. Là. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Ça veut dire quoi, ça? Est-ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu? Ça veut dire qu'à un moment donné, elle a arrêté de marcher avec Dieu et sa vie, elle est plus conforme à ce que Dieu désire. Il y a un abandon de sa part. Et là, Dieu, il faut qu'il la ramène, cette personne-là. Je crois que l'Épître aux Hébreux, encore là, on pourrait parler longtemps, là, je crois que l'Épître aux Hébreux s'adresse à des croyants qui ont envie d'abandonner et que Dieu va châtier. Que l'auteur veut dire, vous avez besoin de persévérance, il va dire ça tantôt au verset, et veillez à ce que personne ne se prive de la grâce. On a parlé tantôt qu'il a profané l'Alliance. Regardez, je vais continuer de lire. À ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. À ce qu'il n'y ait ni débauché, ni profane, comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté. Quoi qu'il l'ait sollicité avec l'âme, car il ne put amener son père à changer de sentiment. Ésaü a profané son droit d'aînesse et il a perdu la bénédiction. C'est ça que l'Épître aux Hébreux nous dit. Si on arrête de persévérer, c'est quoi la conséquence? Je perds-tu mon salut? Non. Mais Dieu va me châtier, puis je vais perdre des promesses. C'est ce qu'il va me dire tout au long de l'Épître aux Hébreux, ce que je crois. Regardez verset 36. Car vous avez besoin de quoi? De vous convertir? Vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Alors, s'ils ne persévèrent pas, ils n'auront pas la bénédiction ou la promesse qui leur est promise. Et ça, pour la vie présente. Alors, il avait foulé aux pieds le Fils de Dieu, profaner le sang de l'Alliance, outrager l'Esprit de la grâce. Et maintenant, ça veut dire quoi qu'il ne reste plus de péché pour ces gens-là? Ces gens-là sont... J'ai dit quoi? Le péché, excusez, et ça serait bien qu'il ne nous reste plus de péché à faire. Hein? Un jour, ça va arriver. Mais qu'il n'y aurait plus de sacrifice. Regardez toujours dans le chapitre 10, à partir du verset 19. Ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Approchons-nous donc avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure, retenons fermement la profession. Et j'aurais pu citer qu'on a une libre entrée ou un libre accès au trône de la grâce et que là aussi, on peut s'y approcher avec assurance. Si je pêche, je dois confesser mon péché et m'approcher devant Dieu puis lui dire « Je te demande pardon ». Et puis, Dieu vient de me dire « J'ai une libre entrée dans le sanctuaire ». Dieu me dit dans l'Épître aux Hébreux aussi que j'ai accès à son trône de la grâce afin de quoi? D'être secouru dans nos besoins. Ça se peut qu'à un moment donné, la lutte est difficile et j'ai besoin d'aide et je vais le faire. Alors, il y a toujours le pardon, évidemment, de nos péchés pour quiconque est en Jésus-Christ. Il n'y a aucun, ici, de péché volontairement, qu'il ne reste plus de sacrifice, ne veut pas dire qu'il n'y a pas de pardon, mais veut dire qu'il y a... Tournez dans Psaume 51. Est-ce que on suit jusqu'à date? On est tout en même place? OK. Psaume 51. David, là, t'avais-tu fait un péché volontaire, là? Avec Bathsheba? C'était prémédité, hein? Pas mal prémédité, même au point d'avoir tué son mari parce qu'il avait couché avec, parce qu'elle allait avoir un enfant, puis le péché engendre le péché, hein? Puis David avait poussé le bouchon vraiment loin. Et là, dans le psaume 51, là où après où Nathan est venu le rencontrer puis le confronter, David a écrit le psaume, il s'est repenti, puis a écrit le psaume 51. Et sans lire tout ce qu'il nous a dit, regardez le verset 5 à 9, je vais lire rapidement. « Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. » Et là, on peut continuer. David, il reconnaît son péché, il confesse son péché et il dit « J'ai besoin d'être pardonné, Dieu. » Il demande pardon à Dieu. Et David était dans cette époque où il était sous la loi de Moïse. Et regardez verset 18. On va lire verset 18 et 19. « Si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. » Et en voulais-tu, Dieu, des sacrifices pour ce point-là? Non, il n'en voulait pas. Puis David le savait très bien. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Tout ce qui restait pour David, c'était de se présenter devant Dieu avec son cœur brisé, puis d'implorer le pardon. Et Dieu lui a donné. Est-ce que Dieu voulait des sacrifices pour ce péché-là? Non, il n'y avait pas de... David, il dit, si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Puis selon la loi, là, si on prend le temps de lire la loi, il y en a pour certaines occasions que Dieu a manifesté clairement qu'il en veut des sacrifices. C'est sûr que ultimement, le plaisir de Dieu n'est pas dans les sacrifices, mais dans le cœur brisé et contrit. Et à plus forte raison, dans ce péché-là de volontaire que David a fait, tout ce qui lui reste, c'est se présenter devant son Dieu puis de dire... Il faut que tu me sauves. Alors, je pense qu'on ne verra pas l'autre question finalement ce soir. Hein? j'ai appelé ce texte-là. Laisse-moi trouver comment je l'ai appelé. L'art de s'attacher à Dieu. A-R-T. L'art pour le A, attachons-nous à Dieu en considérant l'avertissement. Il y a un avertissement qu'il faut se souvenir. Cet avertissement-là, à prendre au sérieux, plusieurs avertissements. Abandonnons pas notre assemblée, verset 35. Abandonnons pas notre assurance. Abandonnons pas, péchons pas volontairement. Abandonnons pas Jésus, finalement. L'art de s'attacher à Dieu, de considérer l'avertissement. Le R pour... Attendez un peu, je vais essayer de le trouver. J'ai oublié le R. Il est où mon R? je pense que ce que je voulais dire par le R, c'était l'idée de retenir. Oh! Se rappeler! Se rappeler! Parce que c'est ça qu'il dit, hein, dans les versets 35 à 39. Rappelez-vous! Votre marche, rappelez-vous votre foi, rappelez-vous la manifestation, rappelez-vous le caractère de Dieu. On considère l'avertissement, puis deuxièmement, pour s'attacher à Dieu, il faut se rappeler aussi comment est-ce qu'on a manifesté notre foi. Et la troisième chose, pour le T, de l'art de s'attacher à Dieu, mais tenir bon. La persévérance, c'est tenir bon dans les versets 35 à 39. Je vais juste terminer avec ces versets-là, on peut conclure avec cet encouragement que Dieu nous laisse. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et ne tardera pas. Lâchez pas, qui est en train de dire, continuez. Vous avez eu des promesses, vous allez les obtenir. Abandonnez pas, continuez de persévérer. Puis vous allez voir aussi un jour votre Sauveur, votre Seigneur. Et mon juste, et là il cite l'Ancien Testament, vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leurs âmes. Ce verset-là, on pourrait l'attacher à Jacques 5, qui ressemble beaucoup à des thèmes connexes de sauver l'âme ou de ne pas se retirer ou de revenir dans la voie. Je crois que l'auteur est en train de dire, est en train de les encourager en leur disant, « Choisissez pas cette voie-là. » Regardez, Dieu, il dit, « Le juste vivra par la foi. » Continuez de vous attacher à la foi, de persévérer, de manifester la foi et retirez-vous pas de ce chemin-là. Tenir bon en se rappelant la motivation, tenir bon en persévérant, puis tenir bon en pratiquant la foi aussi. L'art de s'attacher à Dieu. Question ou commentaire? Oui, Joanne. Moi, je crois que ça serait dans ce sens-là. Et on pourrait faire une étude verbale, c'est-à-dire d'un mot, feu, par exemple, qui a différents sens dans les Écritures. Ce n'est pas toujours l'enfer, le feu. Mais c'est des fois la purification ou la sanctification. Le feu peut avoir ce sens-là aussi, qui n'est pas toujours l'enfer. Alors, effectivement, le feu, à mon avis, va vraiment avec châtiment. Qui est le contexte donné, comme tu viens de dire. Et puis là, j'oserais quasiment lancer une mini-bombe, parce que c'est un texte un peu difficile, là. Hébreux 6 est un texte, je dirais peut-être même encore plus difficile que ce qu'on vient de lire. Puis, tournez dans Hébreux 6. C'est juste pour compléter même l'argument de ce feu-là, là. Parce que je crois que, comme je disais tantôt, tout l'épître aux Hébreux se tient ensemble. Mais, Hébreux 6... OK, je vais juste commenter le mot « feu ». Ça marche, je vais lire le texte, mais je vais juste commenter le mot « feu ». Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, en passant « goûter », là, c'est vraiment, c'est plus que d'avoir sur le bout de la langue. Hein. C'est vraiment qu'il a pris part. Parce que dans Hébreux 2, le même mot grec qui est là, on dit que Jésus a goûté la mort. Il a plus que goûté, là. Il est vraiment mort, là. Il était enseveli pendant 3 jours. Alors, goûter est vraiment d'avoir pris part. Et qu'ils sont tombés, soit encore renouvelés, je vais juste insister sur des mots importants, là, qu'ils soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Et là, il va donner un exemple, verset 7. « Lorsqu'une terre abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle produit une herbe utile à tous ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. On abreuve une terre, elle fait pousser des fruits, et ceux qui possèdent le champ, ben, ils vont bénéficier des fruits. Mais qu'est-ce qu'on fait si on possède une terre qui finalement commence à donner de moins en moins de fruits puis commence à donner plus de ronces? Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite, on finit que par y mettre le feu. » Juste insister sur le mot « feu » ici. C'est, à mon sens, à mon interprétation, comme du reste, la majorité de l'Épître aux Hébreux, c'est des croyants qu'on s'adresse. Et on finit que par y mettre le feu. Pour moi, ça sous-entend encore dans le contexte un châtiment, une punition pour les enfants de Dieu. Et il y a un mot vraiment très important aussi, là, puis je vais terminer avec ça, dans le verset 8. « Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et elle est maudite. Elle est près d'être maudite. » C'est un enfant de Dieu, à mon avis, à mon interprétation, qui a poussé le bouchon au maximum de ce qu'il pouvait faire avec Dieu, qui a négligé Dieu à son maximum. Et là, Dieu il dit « Non, là, c'est assez. Là, c'est assez. cet enfant-là, il doit être châtié. Et puis, ça se peut que sa vie prenne un dur coup. Elle est près d'être maudite. Pour moi, c'est même une assurance que Dieu, jamais, il ne maudit un de ses enfants. Mais ça se peut qu'un enfant soit allé à la limite de l'acceptable avec Dieu, puis Dieu, il dit non, on met le feu. Et qu'est-ce qu'on fait? Le feu sous-entend aussi que, quand il y a, après le grand trône blanc, là, on va passer le feu, puis qu'est-ce qui ressort par après? Est-ce que c'est anéanti? Nouveau ciel, nouvelle terre, et c'est beau. Et c'est bon et c'est agréable. Alors, moi, si je possède une terre qui est supposée de donner des fruits, puis elle n'en donne plus, je mets le feu et tout d'un coup, la nature elle-même témoigne que les bonnes choses vont ressortir, les choses que l'on veut. Ça, c'est le châtiment. C'est mon interprétation d'Hébreu 6 qui va avec le feu de Hébreu 10 et puis d'Hébreu 12 et puis le contexte du châtiment sur les enfants qui ne persévèrent plus dans la foi. OK. On termine ça. J'avais vu une coupe de main levée. On peut. Ça va? C'était Céline? OK. Oui, vas-y, Jean-Pierre. Oui. Abandonner Dieu. C'est ça, c'était pas abandonner Dieu. C'est ça, il y avait un changement d'assemblée. Oui. C'est du bon. Oui. Oui. Oui, c'est ça. Exactement. C'est ça. Des bonnes choses vont se révéler. Je veux juste quand même terminer en disant, c'est ce que je vois, là. Je vous ai partagé ce que je vois, ce que je peux interpréter, ce que je comprends. Et il y a, si c'était, pas pour donner encore plus de troubles, là, mais si c'était, par exemple, notre frère René qui l'avait enseigné, il l'aurait enseigné différemment de moi. Moi et René, on n'avait pas cette même position-là sur le texte. Je veux juste dire en disant ça que je vois ça dans les Écritures, je l'expose, et il faut que notre herméneutique, dans un sens, elle se tienne avec l'ensemble des Écritures. Et c'est ça qui est important. Maintenant, je vois bien, comme certains exégètes, puis même certains parmi nous, on peut ne pas nécessairement avoir la même interprétation, mais notre herméneutique, elle doit être tout aussi importante puis tout aussi rigoureuse que ça doit se tenir avec le reste du texte. Puis il y a certains arguments qui collent bien dans un sens avec Hébreu. Juste pour faire une petite parenthèse, Pierre, dans l'Épître de Pierre, dans 2 Pierre, il est clair que dans ce cas-là, c'est des apostats, des hommes qui ont justement flirté avec la foi chrétienne, mais qui, eux, à un moment donné, le texte est clair, là, ils n'ont pas eu peur, ils sont des citernes brisées, et puis il n'y a rien qui les retient. Et là, c'est des gens qui se sont attachés dans un sens à la foi, mais qui n'en ont jamais eu peur, et qui, là, emmènent du monde avec eux pour abandonner la foi. Pierre n'en parle. À mon avis, l'Épître aux Hébreux n'est pas ça, c'est des croyants qui ne persévèrent pas puis que Dieu va châtier. Mais il y a des apostats, comme selon notre interprétation de d'autres peuvent avoir, dans les Écritures, on en parle aussi. Il y en a. Je termine en priant. Je sais que ça fait beaucoup de choses qu'on a dit. Hein. Ce soir, pour les proverbes, c'est partie remise, si vous voulez bien. Je pense qu'il y a d'autres choses beaucoup à dire pour les proverbes, peut-être quasiment toute une autre soirée. Mais on verra. Comment? On veut? Bon, ça marche. Alors, je vais prier en terminant. Seigneur, on vient devant toi pour te dire merci encore pour ta parole. Une chose que l'on est sûr, Seigneur, c'est que tu désires qu'on marche avec toi, avec fidélité, que l'on marche dans la vérité, et on sait que tu nous aimes, Seigneur. On a cette conviction-là, cette certitude-là, et que, évidemment, Seigneur, ton désir pour nous n'est pas qu'on abandonne nos voies, Seigneur, avec toi, mais que si on pêche, on croit, Seigneur, qu'on peut se présenter à toi, te confesser nos péchés, puis que tu seras fidèle et juste pour nous pardonner. Et ça, c'est un puissant encouragement, Seigneur, pour chacun d'entre nous, parce qu'on est, bien que tu nous as donné cet homme nouveau, on a constamment, Seigneur, cette nécessité-là à le revêtir et à se dévêtir de notre vieil homme. On a encore ces luttes, Seigneur, qu'on a besoin d'avoir, et tu nous encourages à le faire. Tu nous relèves, tu nous tends la main. Et merci, Seigneur, pour ta fidélité. Dans le nom de ton Fils qu'on te prie. Amen.